J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous êtes réjouis hier? Vous avez bien dormi, puisque vous êtes au deuxième culte, je suppose que vous avez voulu prolonger un peu le sommeil. Oui, ce matin, j'aimerais vous parler de la parole de Dieu, et ça vous vous en doutez. J'aimerais qu'on comprenne le sens de la fête de Noël. Je pense qu'elle traduit ici l'amour de Dieu et l'amour de Dieu pour les hommes. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous constatons combien Dieu nous aime. Lorsque Adam, dans le jardin d'Éden, a péché contre Dieu, Dieu est venu. Ce n'est pas l'homme qui s'est tourné vers Dieu, Dieu est venu vers lui. Tout simplement parce qu'il savait que la création, sa création, était dans la souffrance. Cette création qu'il avait faite à son image avait obéi à la voix de l'ennemi et s'était égarée. Mais le Seigneur, dans son amour, est venu. Il est venu par une simple question. Où es-tu? Et s'il l'a posé cette question, c'est qu'il ne voulait pas que l'homme s'éloigne de lui. Et nous voyons par la suite que Dieu se choisit un peuple. Et lorsqu'il se choisit un peuple, il fait alliance avec ce peuple. Et chaque fois que ce peuple a péché contre l'Éternel a fait un pas vers l'homme. Il a fait un pas vers l'homme, tout simplement encore parce que son cœur était rempli d'amour pour l'homme. Mais cette fois-ci, j'aimerais nous transporter dans une histoire qui se passe un peu plus de 700 ans avant la naissance du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, ici, n'a pas fait confiance à Dieu face à une situation. Et la parole de Dieu nous dit, donc ici que l'Éternel les a privés de sa présence. L'Éternel les a privés de sa présence. Donc, ils étaient comme dans les ténèbres. Dans les ténèbres, parce que lorsqu'on est loin de Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Mais dans sa grande bonté, le Seigneur, bien qu'il avait puni ce peuple en les soumettant à l'oppression des peuples avoisinants, notamment la Syrie, il a quand même promis à un moment donné de revenir vers eux et de leur donner un moyen du salut. Et alors je vous invite ici à ouvrir pour voir ce texte, le livre d'Ésaïe dans son chapitre 8 et au verset 23. Et le titre de mon message sera Des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Si vous êtes dans le texte, si vous avez trouvé le texte, je vais le lire et je le lirai dans la version Semeur et ça s'affichera. Il dit ici, mais il n'y aura pas toujours des ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer et au-delà du Jourdain, les districts des nations païennes. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi comme au temps de la moisson ou comme on crie de joie lors du partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, tout manteau que l'on n'a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car, et c'est là la bonne nouvelle, pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice, et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Je disais dans mon propos d'introduction que le peuple avait péché contre l'Éternel. Et lorsque le prophète Ésaïe ici dit « Il n'y aura pas toujours des ténèbres sur ce pays », c'est que le péché a entraîné les ténèbres au pays, dans le pays d'Israël. Et ce péché, comme je le disais aussi, c'était une désobéissance du peuple vis-à-vis de Dieu. La parole de Dieu nous parle ici d'une idolâtrie. Ils se sont conformés au peuple environnant. Alors que si Dieu avait détruit ces peuples auparavant, c'était justement parce qu'ils se livraient à l'idolâtrie. Ils ont fait pareil. Et le Seigneur qui est juste les a punis. Et comment les a-t-il punis? En envoyant une force d'occupation. Non seulement une force d'occupation, cette force a détruit le pays d'Israël, mais en plus il a déporté certains d'entre eux, certains des membres du peuple d'Israël. Et ceci parce qu'il s'était entêté à refuser, il s'était entêté et ne voulait pas écouter les avertissements des prophètes. Oui, la sentence de l'Éternel est tombée sur ce peuple. Mais tout comme je le disais au début de ma prédication, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas voulu que l'homme s'éloigne de lui, il a fait un pas. Là aussi, par les premiers propos, les premières lignes du verset 23 du chapitre 8, il annonce encore qu'il ne restera pas loin de l'homme. Il dit, il n'y aura pas toujours les ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. Oui, ce pays était vraiment dans les douleurs que lui faisait subir l'oppresseur. Et dans ces douleurs, ils ont certainement dû crier à l'Éternel. Je ne sais pas quel est ton cas lorsque tu es venu ici ce matin. Est-ce que tu as déjà entendu dans ta vie la parole de Dieu? Je sais que pour beaucoup d'entre nous, nous l'avons entendue. Mais je veux particulièrement m'adresser à celui qui ne connaît pas encore Dieu dans cette salle. Pour dire, si tu as mené ta vie jusque-là, comme tu l'entendais, et que aujourd'hui tu constates que tu es rentré dans plus ou moins dans un piège, tu subis les conséquences des actes que tu as posés, Dieu veut te donner ici un message. Si tu sens que ta vie n'a plus de sens et qu'il y a du trouble dans ta vie, Dieu veut te donner ici un message. Il n'y aura pas pour toujours des ténèbres dans ta vie. Il n'y aura pas toujours des ténèbres dans ta vie parce que Dieu a décrété la fin des ténèbres. Dieu, s'il a décrété la fin des ténèbres, c'est qu'il veut t'introduire dans sa lumière. Je venais de développer la partie 1 qui disait qu'il était la fin des ténèbres dans la vie des hommes, la fin des ténèbres. Mais comment est-ce que va s'opérer cette fin des ténèbres? C'est ce que nous allons voir maintenant. Lorsque Jésus, donc plus de 700 ans après que cette prophétie a été donnée, arrive sur terre, il y a l'évangéliste Matthieu qui reconnaît en Jésus celui qui est venu accomplir cette parole. Et nous le trouvons dans le livre de Matthieu, Et dans le livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 15 et 16. Voilà. Il est affiché, il dit, écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des nations, Sarah, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Lorsque je lis ce texte, et qu'on retrouve quasiment de manière intégrale dans le livre d'Ésaïe, il nous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour ce peuple qui s'était détourné de Dieu vers leurs idoles. Mais au-delà de ce peuple d'Israël, la bénédiction va s'étendre, non pas seulement sur le peuple d'Israël, mais sur le monde entier qui est matérialisé ici par quand il dit « Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière, la lumière resplendira sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres. » Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est le 23 que je voulais lire. Il n'y aura pas pour toujours des ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse, si dans les temps passés Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, les districts des nations païennes. La lumière ici, que Dieu veut mettre sur le monde, ne se limite pas uniquement au peuple d'Israël. Elle veut aussi venir dans ta vie comme elle est venue dans la mienne. Dieu ici veut faire donc régner la lumière. Et dans les versets 2 au verset 3, voire même un peu plus, le Seigneur donne dans sa prophétie les objectifs qu'il se fixe. Par rapport au peuple. Il veut apporter la joie et l'allégresse, il veut apporter la délivrance, il veut apporter la libération, il veut apporter la victoire, il veut apporter la fin de la guerre. Est-ce que Jésus est venu réaliser tout cela? La parole de Dieu est affirmative là-dessus. Oui, il est venu le faire. On voit donc que lorsque Jésus arrive et qu'il commence son ministère, il commence à s'attaquer à la véritable cause des ténèbres. Qu'est-ce qu'il dit dans son premier message? Il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Si nous nous rappelons bien, la cause des ténèbres dans le peuple de Dieu était la désobéissance, était l'idolâtrie. Ils avaient mis quelque chose au-dessus de Dieu. Et Dieu n'avait pas été content et sa colère et sa sentence est tombée sur le peuple de Dieu. Alors, avant de faire quoi que ce soit, il commence à la racine. Et la racine qui nous prive, en tout cas la chose qui nous prive de la présence de Dieu, de la lumière de Dieu, c'est le péché. Donc son message est clair, il veut faire quelque chose dans nos vies. Changer, nous dit dans la version de Semer, car le royaume des cieux est proche. Ceci donc nous dit ici que si nous ne changeons pas, si nous continuons à vivre la vie qui est la nôtre en mettant Dieu de côté, nous disons clairement que nous ne voulons pas changer, nous nous complaisons dans nos ténèbres. Si tu veux que dans ta vie les choses changent et la parole de Dieu est claire, et c'est ce que le message de lumière que Jésus est venu apporter, et dit il faut commencer par le commencement, bien que ce soit une tautologie, commencer par le commencement, c'est-à-dire régler le problème du péché. Puis nous voyons Jésus aller plus loin lorsque ce problème de péché semble résolu, en tout cas lorsque ce message est passé, nous le voyons faire du bien. Allant de lieu en lieu, la parole de Dieu nous dit, guérissant les malades, chassant les démons. Voyez, la maladie est quelque chose qui oppresse. Et Jésus est venu pour la détruire. Les démons, en tout cas la possession, est quelque chose qui oppresse. Et pour ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu et quand on voit le parcours de Jésus, on voit combien les gens étaient possédés. Je vois cet homme qui, lorsque Jésus est venu devant lui, il a dit « Qui es-tu ?» Il a dit à Jésus « Je suis Légion ». Parce qu'il était possédé par une légion de démons qui le jetait par terre, qui le meurtrissait. Il était dans les ténèbres. Pour lui, il n'y avait pas d'avenir. Il était véritablement dans les ténèbres. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, par un seul mot, par la puissance qui était la sienne, il a fait taire. Il a fait taire l'ennemi. Il a changé la vie. Et de la même manière, vraiment de la même manière, lorsque moi je pense à Noël, je pense à cette venue du Fils de Dieu, avec pour mission de venir détruire toutes les œuvres du diable. Il n'y a aucune qui n'est au-delà de sa puissance. Toute puissance lui est soumise. Toute puissance lui est soumise. Et lorsqu'il donne sa parole, elle fait fuir le diable. Elle fait fuir et elle détruit les œuvres du diable dans nos vies. Et c'est ça vraiment le véritable sens de Noël. Il est venu non seulement pour notre âme, mais il est aussi venu pour notre corps. Il est venu donc changer radicalement la vie, nos vies, y introduire la lumière. Mais au-delà donc de la guérison physique, la guérison spirituelle, il est aussi venu nous apporter une espérance pour la vie éternelle. Lorsque il a constaté que par nous-mêmes, et la parole de Dieu nous le dit, nous ne pouvions effacer la peine de nos péchés, il est venu s'incarner dans une forme humaine. Il était homme, véritable homme, mais homme sans péché. Et le frère disait tout à l'heure que lui, juste, il est venu mourir pour les injustes, afin de nous réconcilier avec notre Père, afin de nous donner un avenir. Il en avait la capacité, lorsque le texte que nous avons lu tout à l'heure, lorsque nous lisons le texte de tout à l'heure, il nous dit, un enfant nous est né dans la version seconde, un fils nous est donné. Un enfant est né, un fils nous est donné. Lui qui était le prince, en tout cas, qui avait toute la gloire dans le ciel, qui était adoré par des myriades d'anges, décide de descendre dans une étable pour partager ma condition, pour partager ta condition. Il est né. Donc il a dû passer par toutes les vicissitudes de la vie, par toutes les choses qui embêtent. Il est passé même par les tentations diverses. Et la parole de Dieu nous dit, malgré toutes ces tentations, il n'a péché en rien. Ne pouvait-il pas dire en face aux gens, qui d'entre vous pourra me reprocher d'un péché? Et lorsqu'il défiait les foules, personne ne pouvait lui reprocher d'un péché. Mais s'il a accepté de descendre et de partager notre condition, c'était parce qu'il voulait nous rapprocher du Père. Il voulait nous réconcilier avec le Père. La parole de Dieu nous dit, après avoir accompli tous ses biens, il a accepté de monter sur une croix. Et là encore, c'est le sens de Noël. Il dit, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Car Dieu a tant aimé le monde, nous dit la parole de Dieu, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une vie qui sera une vie dans la lumière, une lumière éternelle. Je suis toujours étonné, parce que je me connais, je ne vous connais pas, mais je me connais. Je me demande comment un Dieu si bon, un Dieu, en tout cas un Dieu si pur, a pu s'intéresser à un homme comme moi. Un homme sujet à des faiblesses, un homme sujet à des chutes. Un homme parfois rebelle. Je ne parle que de moi. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Mais malgré tout cela, l'amour de Dieu s'est encore manifesté. Dieu ne veut pas que tu restes dans les ténèbres de la vie. Dieu ne veut pas que tu subisses les souffrances de la vie. Dieu ne veut pas que ton âme périsse. C'est pour ça qu'il a fait tout cela. Et lorsque je regarde encore avec attention la vie de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus, je vois qu'il a commencé une œuvre et il a voulu qu'elle perdure. Nous le voyons au début de son ministère choisir des gens qui seront capables de diffuser la lumière qu'il a commencé à donner. Il dit à propos de ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et à toi qu'il a reçu dans son cœur, la parole de Dieu dit qu'il a fait de toi son enfant. Et si tu es son enfant, tu es aussi la lumière du monde. Donc, s'il a fait cela, c'est pour que cette œuvre perdure jusqu'à ce qu'il revienne. Mais reflètes-tu la lumière de Dieu dans ta vie quotidienne? Pour vivre vraiment dans l'esprit de Noël, l'esprit de la venue de Christ, tu dois aussi, dans ta vie, refléter la vie de Dieu, donner envie à ceux qui t'entourent d'accepter le Seigneur Jésus. Et tu peux facilement le leur présenter parce que tu as là un Dieu qui peut les conseiller dans toute leur vie. La parole de Dieu nous dit « un admirable conseiller ». Donc tu ne perds rien au change en acceptant ce cadeau qu'il te donne. Et le conseil aussi qu'il te donne est gratuit. Lorsque je vois que dans la vie aujourd'hui, lorsqu'on va consulter un conseiller, avant même que vous ne parliez, il vous demande de poser l'argent sur la table. Je me rappelle encore, j'avais un souci, en tout cas mon épouse et moi on avait un souci, et on est allé voir un avocat, bien avant qu'on ouvre la bouche. Il nous a dit, c'était à l'époque des francs, hein, 5000 francs. Mais alors que ce Jésus, il te dit, c'est gratos, 0 euro. Un merveilleux conseiller. Donc, ici, voilà, encore une fois de plus, le sens de cette fête. Il faut que nous réalisions que le Seigneur est venu pour nous conseiller dans notre vie. Et lorsqu'il nous conseille et que nous suivons ce conseil, nous vivons dans la lumière. Je me rappelle toujours ce texte et il est resté gravé dans ma mémoire. Oh, si tu étais attentif à mon commandement, donc à mon conseil, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ésaïe 48:8. Il le dit, ton bien-être serait comme un flot de la mer. Vous voyez combien Dieu se préoccupe de notre bonheur. Et c'est là le sens de sa venue. Il est venu libérer, je disais tout à l'heure, ceux qui étaient dans les chaînes, dans la captivité. Il est venu donner la victoire à ceux qui n'en avaient plus. Et la parole de Dieu dit, il viendra même instaurer la fin de la guerre. Vous me direz, vous ne la voyez pas encore, mais c'est sûr que cela vient. Lorsque le Seigneur reviendra, il le fera. Il le fera, mais les bénéficiaires seront ceux qui lui auront confier leur vie à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Je disais tout à l'heure, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à ceux-là, il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez, Dieu ne supporte pas que vous soyez loin de lui. Dieu ne supporte pas que je sois loin de lui. Il ne supporte pas que tu sois loin de lui. Il ne supporte pas que tu sois dans des problèmes qui sont liés à l'œuvre du diable. Je suis venu détruire les œuvres du diable. Oh mon frère, ma sœur, mon cher ami, veux-tu accepter le cadeau de Noël? ce cadeau merveilleux que Dieu te donne. Ne te méprends pas sur les intentions de Dieu, elles sont bonnes à ton égard. Elles sont vraiment bonnes. Parfois, nous voulons agir comme des gens qui sont sages, en mettant de côté le conseil de Dieu. Mais je vous dis, c'est le meilleur conseil qu'on puisse avoir. As-tu reçu le cadeau de Noël? Et si tu l'as reçu, cher ami, qu'en fais-tu? Que fais-tu de ce cadeau? L'utilises-tu à bon escient ou le dilapides-tu? Il a coûté cher à Dieu parce qu'il a dû voir son fils, il était contraint de voir son fils souffrir parce que c'était le seul moyen pour nous ramener à lui. Est-ce que tu négliges un si grand cadeau? La parole de Dieu nous dit, ne négligeons pas un si grand salut. Ne négligeons pas un si grand salut. Rentre donc en possession de ton cadeau ce matin. Considère sa valeur et utilise-le à bon escient. À bon escient. J'aimerais te dire une chose à toi qui n'as pas encore reçu ce cadeau. Ne regarde pas ta vie en disant qu'elle est très mauvaise devant mon Seigneur, devant Dieu, ce Dieu si saint. Il dit justement, je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les gens qui sont considérés comme des marginaux dans la société. Et si tu crois que tu es bon et que tu n'as pas besoin de salut, que tu n'as pas besoin de la lumière que Dieu veut te donner, je veux t'avertir. Ne néglige pas un si grand salut. Parce qu'en le négligeant, tu cours à ta perte. Un cadeau, on peut le prendre. Un cadeau, on peut le refuser. Mais je t'en supplie. Ne refuse pas le cadeau de ton Père. Je t'en supplie, ne néglige pas le cadeau de ton Père. J'aimerais qu'un jour, qu'on soit dans le ciel et qu'on célèbre ce cadeau ensemble. Quand nous nous reverrons devant notre Seigneur, qu'on se dise, chacun d'entre nous, je n'ai pas négligé le cadeau que Dieu m'a donné. Et c'est dans ta vie de chaque jour que tu dois prendre soin. Il a coûté à ton Seigneur la vie. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel. J'aime cela. C'est une parole que je ne veux pas quitter. Il est allé me préparer une place. Ne marche pas chaque jour comme un inconscient. Il y a une éternité, mais où la passeras-tu? Moi, je suis heureux. Parce que Dieu a changé ma vie. Je suis heureux parce qu'il m'a donné ce cadeau. Et je veux le garder. Je vais demander de baisser les fronts. De fermer les yeux. Alléluia. Veux-tu recevoir le cadeau de Dieu au cas où tu ne l'aurais pas? Pendant que les yeux sont fermés. Je ne te ferai pas lever, je te rassure tout de suite. Pendant que les yeux sont fermés, si tu veux recevoir ce cadeau de Dieu, je te demande là où tu es, de lever ta main. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci. Je te loue Seigneur. Je te bénis. Parce que ton cadeau, tu le donnes encore aujourd'hui. Je te loue et je te bénis. Parce que chaque jour, Seigneur, tu veux faire entrer dans ta maison le maximum de personnes. Merci, Seigneur, parce que pour ceux qui ont négligé ce cadeau, tu es le Dieu compatissant et qui pardonne et qui donne une nouvelle chance. Seigneur, merci pour ces nombreux bienfaits à notre égard. Et Seigneur, comment comprendre un tel amour? Comment le comprendre? Mais tu es Dieu, Seigneur, et tu n'es point un homme. Et tu peux faire des merveilles. Pour ceux qui ont levé la main, Seigneur, je te demande, Père éternel, de les remplir de ta grâce, de les remplir de ton amour, Seigneur, et qu'ils prennent conscience du cadeau merveilleux que tu leur as donné, et qu'ils l'utilisent, Seigneur, comme il se doit. Je te loue et je te bénis, parce que tu le feras. Tu dis, demandez et l'on vous donnera. Et c'est ce que nous faisons en toute humilité, en venant vers ce Dieu puissant, ce Père éternel, ce Prince de la paix. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps, lève-toi, bon nos hommages, la gloire au plus haut des. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer. Tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tu es si bon et grand pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix. est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi.
Alléluia. Merci parce que tu es grand et merci parce que lorsque nous considérons tout ce que tu as fait pour nous, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons que tu es merveilleux. Oui, tu es admirable, oui, tu es merveilleux, oui, tu es notre conseiller. Tu es le créateur aussi du ciel et de la terre et nos cœurs veulent considérer une fois de plus combien tu es grand et nous voulons aussi le chanter, combien tu es grand pour nous, Seigneur.
Tu es